Alors, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est du sens métaphysique de la critique de la cosmologie rationnelle qu'on trouve dans la critique de la raison pure. Et au fond, je voudrais défendre l'idée sur laquelle le diagnostic kantien concernant cette cosmologie rationnelle, c'est-à-dire cette branche de la métaphysique spéciale qui est assez récente à l'époque où il écrit, puisqu'elle date de Wolff, le diagnostic kantien serait le suivant à son sujet. Cette cosmologie prétend tenir un discours sur le tout absolu des phénomènes, et ce faisant, elle ne fait jamais que parler, aussi bruyamment que confusément, de rien. D'où le titre de mon exposé, « Parler du tout des phénomènes, parler de rien, Kant est la fable du monde. » Puisque ce rien dont la cosmologie parle, c'est le monde. Considéré comme un tout absolu des phénomènes. Alors, je vais commencer par expliciter ce que j'entends par là, très rapidement. Et puis, je voudrais même radicaliser mon propos en montrant que la nullité du monde, si vous voulez, le fait que le monde soit rien, excède même celle que Kant entend pointer. Et que ce qui trahit ce fait, c'est le fait que la quatrième antinomie ne tient pas. Donc c'est pourquoi je vous ai distribué le texte de la quatrième antinomie, parce que je voudrais montrer que ce texte est multiplement bancal, et contrairement à ce qui vient d'être dit, je tiendrai donc que Kant ne produit une quatrième antinomie que par un souci de symétrie abusive. Et alors, si vous voulez, il y a une tradition d'interprétation qui remonte là encore à Schopenhauer, selon laquelle il n'y aurait que trois antinomies réellement, mais donc j'aboutirai à la même conclusion, mais pour une raison inverse à celle qui est pointée par Schopenhauer. Schopenhauer dit, et il est suivi par tout un tas d'interprètes, que la quatrième antinomie, c'est au fond la troisième. Et que donc, il n'y en aurait que trois. Que la quatrième, Kant la produit parce qu'il en faut quatre, puisqu'il y a les quatre types de catégories, mais qu'en fait, la quatrième est redondante à l'égard de la troisième. Moi, je soutiendrai qu'il n'y en a que trois, précisément parce que la quatre est tellement différente de la 3 qu'elle ne marche pas, en fait. D'accord ? Et donc, je dirais que, je montrerai dans un deuxième temps, que la quatrième antinomie ne tient pas parce que le thème cosmologique est à ce point inconsistant qu'il ne peut pas même soutenir le dispositif par lequel Kant entend le déconstruire une quatrième fois. Au fond, le monde est à bout de souffle après les trois antinomies. Le monde est à ce point nul que la construction de la quatrième antinomie suppose encore trop de lui. Puisque l'enjeu de mon propos, c'est celui de la signification métaphysique de la cosmologie, je commencerai par mettre en perspective le thème du monde et son traitement dans la critique de la raison pure, à partir de textes beaucoup plus tardifs. C'est ceux que Kant a rédigés en 1793, lorsqu'il a entrepris de répondre à la question académique « quels sont les progrès réels de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff ?» que j'appellerai « les progrès de la métaphysique pour faire vite ». J'en viendrai ensuite au texte de la quatrième antinomie avant de présenter une conclusion générale. Alors, le texte que j'appellerai « les progrès de la métaphysique » donne une définition de la métaphysique qui est la suivante, qui est une définition dynamique de la métaphysique. Je cite, « Le nom ancien de cette science, metataphysica, donne déjà une indication quant au genre de connaissances que l'on avait pour dessein d'atteindre avec elle. On veut par son intermédiaire outrepasser tous les objets d'une expérience possible, transphysicam, pour connaître, si possible, ce qui ne peut absolument pas être un objet de cette dernière, et la définition de la métaphysique, conformément au dessein qui renferme la raison pour laquelle on sollicite une telle science, serait ainsi la suivante. La métaphysique est une science consistant à progresser de la connaissance du sensible à celle du suprasensible. La métaphysique est donc le dépassement rationnel du sensible. Ce dépassement s'accomplit en trois stades qu'il faut entendre en un sens logique. Le stade ontologique de la métaphysique, le stade cosmologique de la métaphysique et le stade théologique de la métaphysique. Le stade ontologique de la métaphysique, dans le vocabulaire de Kant à l'époque, c'est celui qui comprend les acquis de l'esthétique et de l'analytique transcendantale dans la première critique. Bien. Je dirais simplement en deux mots que ce stade ontologique de la métaphysique n'accomplit toutefois le projet ontologique qu'en liquidant son sens ontologique, puisque les acquis de l'esthétique et de l'analytique transcendantale montrent que on ne saurait développer une théorie de la chose en général, ce qui est la définition de l'ontologie, mais seulement de cette chose tout à fait particulière métaphysiquement, à savoir la chose qui est susceptible de nous être donnée, c'est-à-dire le phénomène. Et donc, on accomplit le projet de l'ontologie en liquidant le projet ontologique même. Le troisième stade, qui est le stade théologique de la métaphysique, on ne peut rien en dire tant qu'on n'a pas franchi le deuxième, et c'est de ce deuxième stade que je voudrais parler, puisqu'il s'agit du stade cosmologique de cette métaphysique. Alors, ce deuxième stade de la métaphysique nous est présenté dans le texte des Progrès comme un stade simplement négatif. Donc Kant dit qu'il est le stade de l'arrêt sceptique, qui présente seulement une doctrine du doute, je cite à chaque fois, une discipline sceptique jouant le rôle d'un scrupule qui ralentit le progrès en direction de l'inconditionné. Il s'agit bien d'un stade de la métaphysique qui, comme les deux autres, est interne à la critique, à l'époque critique de la philosophie. Il ne s'agit pas du stade, du pas sceptique en histoire de la philosophie, du moment des sceptiques, il s'agit d'un stade sceptique interne à la critique. Ce stade, comme je l'annonçais, c'est celui de la cosmologie. Kant écrit qu'il se déroule dans les limites de la cosmologie transcendantale ou pure, et il correspond à la critique de l'antinomie sécrétée par les idées cosmologiques. Dès la critique de la raison pure, Kant précise que dans l'antinomie, il utilise une méthode sceptique. Pourquoi une méthode sceptique? Puisqu'il s'agit, comme vous le savez, de montrer en quoi la raison peut prouver de manière tout à fait rigoureuse deux propositions pourtant opposées, ce qui nous conduit à suspendre les prétentions de la raison en matière de détermination de l'inconditionné sous les espèces du monde. Je vous rappelle très rapidement la définition qu'on trouve dans les esquisses pyrrhoniennes de Sextus. Le scepticisme est la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent, aussi bien que celles qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, capacité par laquelle, du fait de la force égale qu'il y a dans les choses et les raisonnements opposés, nous arrivons d'abord à la suspension de l'assentiment, et après cela, à la tranquillité. Mettre face à face les choses, qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées, c'est dynamis antithétique, phenomenon tekai nominum. Cette antithétique, c'est ça la méthode sceptique qu'on a dans l'antithétique de la raison pure. Et la raison va suspendre ses prétentions à déterminer l'absolu sous les espèces du monde, du fait de ce face-à-face entre des propositions opposées qui sont pourtant rigoureusement prouvées à chaque fois. Bien. Alors, pourquoi y a-t-il un stade cosmologique de la métaphysique dans notre texte? C'est que la raison, là encore comme vous le savez, Kant l'explique suffisamment dans la critique de la raison pure, la raison dans sa quête d'une unité suprême ne peut pas se satisfaire de l'unité que l'entendement impose au phénomène. Le monde, en tant que totalité du phénoménal, est la première forme que rencontre, ou plutôt qu'engendre, le désir d'inconditionner, qui est consubstantiel à la raison, et qui fait qu'elle cherche constamment à s'élever du phénomène à l'ensemble de ce qui conditionne ce phénomène. Le mérite de ce stade cosmologique de la métaphysique, c'est qu'il marque, au fond d'une manière dialectique, la déficience métaphysique du thème cosmologique lui-même. Si la cosmologie importe, c'est parce que, en son sein, surgit une exigence d'inconditionné, en même temps que cette cosmologie nous montre que l'inconditionné ne peut pas être trouvé dans le monde. C'est-à-dire que c'est l'échec de la cosmologie qui est fécond, puisque parce que l'inconditionné ne peut être trouvé dans le monde, on va être invité à le chercher ailleurs. Autrement dit, le deuxième stade de la métaphysique, son stade cosmologique, c'est à la fois celui de l'émergence cosmologique de l'inconditionné, une exigence, et celui de la réfutation de toute inscription de l'inconditionné dans le monde. En effet, et c'est ce que montre l'analyse des deux premières antinomies dans la critique de la raison pure, que Kant nomme les antinomies mathématiques parce qu'elles n'ont à voir qu'à l'intuition, selon la quantité et la qualité, le discours du monde, la cosmologie, est voué à l'absurde dès lors qu'il entend faire de la totalité inconditionnée des phénomènes, le monde, un objet de savoir. Dans ce cas, la raison aboutit à deux propositions opposées qui ne sont pas des contradictoires, c'est-à-dire des propositions régies par la loi de l'alternative, contradiction et tiers exclus, mais des contraires, c'est-à-dire des opposés qui sont régis par le principe de non-contradiction mais pas par le principe du tiers exclus, et des contraires qui, en l'occurrence, sont toutes deux fausses. Dans les deux premières antinomies, les deux opposés sont des contraires qui sont fausses toutes les deux. Le monde, pris comme l'ensemble absolu des phénomènes, n'est ni fini ni infini. Le monde, pris comme l'ensemble absolu des phénomènes, n'est ni composé de premiers éléments simples, ni divisé à l'infini. Pourquoi les deux propositions opposées qui prennent alors le monde pour objet sont-elles fausses? Elles sont fausses toutes les deux parce que c'est l'objet dont elles parlent qui est lui-même absurde. Le monde y est considéré comme une totalité absolue, inconditionnée, alors même que le monde, c'est du phénoménal, c'est-à-dire du conditionné. Le monde dont parlent les deux premières antinomies, c'est cette chose absurde, l'absolu du relatif. La critique ici est radicale, puisqu'il ne s'agit pas seulement de contester à la cosmologie la connaissance qu'elle entend produire. Il s'agit de refuser toute consistance à l'objet même, ou au non-objet plus exactement, dont la cosmologie prétend discourir. Le monde dont parle la cosmologie, totalité absolue des phénomènes, hein, est une contradictio in adjecto. C'est dans des leçons de logique de 1792. Il est comparable à un cercle carré, prolégomène paragraphe 52, ou encore à racine de moins 2. Racine de moins 2. Lettre à Beck du 27 septembre 1791. Les combattants, dans l'arène que figure l'antinomie, se disputent ici une idée sans objet, intrinsèquement dialectique, une simple fantasmagorie. Critique de la raison pure, A423, B451. C'est pourquoi la cosmologie, au sens strict, est un discours très pompeux sur un rien. Racine de moins 2, cercle carré, etc. Le monde, comme tout absolu des étants susceptibles de nous être donnés, est un non-étant. Or, comme dit Kant dans la critique de la raison pure A793B821, non entis nulla sunt predicata. D'un non-étant, il n'y a pas de non-étant, il n'y a pas de prédicat. Et donc, nous n'avons pas affaire à une contradiction, mais à une opposition entre deux contraires qui sont les deux fausses. Voilà pour les deux premières antinomies, c'est-à-dire les antinomies mathématiques. Pourquoi la cosmologie rationnelle est-elle toutefois, n'est-elle pas toutefois vouée à être un discours pompeux sur rien ? Parce que Kant distingue ce que j'appellerais le thème cosmologique, ce que lui appelle, je cite, le concept du tout mondain, c'est-à-dire l'idée de monde, hein, comme totalité inconditionnée des phénomènes, d'une part, et d'autre part, ce qu'il appelle les divers concepts mondains, Weltbegriffe, ou encore idées cosmologiques, qui cette fois désignent, je cite, toutes les idées transcendantales dans la mesure où elles concernent la totalité absolue dans la synthèse des phénomènes. Cette distinction, c'est Critique de la raison pure, A407, B434. C'est-à-dire que les concepts mondains, ce sont tous les concepts qui sont censés satisfaire le motif cosmologique, et je distingue le thème cosmologique, c'est-à-dire le monde, et le motif cosmologique d'une totalité achevée de la synthèse des conditions du phénomène. Les idées cosmologiques sont les divers modes de l'idée de monde, et c'est parce qu'il y a des idées cosmologiques bien particulières que le motif cosmologique d'une synthèse absolue des conditions du phénomène échappe à un effondrement total. En effet, il y a quatre idées cosmologiques: totalité de la composition, totalité de la division, totalité de la genèse et totalité de la dépendance des phénomènes. Or, les deux dernières idées, totalité de la genèse et totalité de la dépendance, les deux dernières idées signifient quelque chose qui peut n'être pas thématiquement cosmologique, qui peut n'être pas du monde. C'est pourquoi le motif cosmologique d'une synthèse achevée des conditions du phénomène peut conduire à viser quelque chose qui n'est pas du monde. Liberté transcendantale, d'une part, être absolument nécessaire, d'autre part. Troisième antinomie, quatrième antinomie. D'accord ? C'est-à-dire qu'avec les deux dernières idées, qui sont des idées cette fois dynamiques, qui ont affaire à l'existence, et non plus simplement mathématiques, qui avaient affaire simplement à l'intuition, avec les deux dernières idées, on a affaire à quelque chose qui surgit bien cosmologiquement, exigence d'une synthèse absolue, des conditions du phénomène, mais qui n'est pas condamné à être thématiquement cosmologique. C'est pourquoi Kant distingue ces deux idées, certes cosmologiques, des deux premières, en les nommant des concepts naturels transcendants. Et on a l'ambiguïté, ils sont naturels, puisqu'ils surgissent d'une exigence de synthèse des conditions de l'existant, c'est-à-dire de la nature, telle qu'elle nous est donnée, mais transcendants, puisqu'ils visent quelque chose qui peut être hors du monde. Et ces concepts naturels transcendants sont distingués des deux premières idées que Kant nomme des concepts mondains au sens restreint, objet des deux premières antinomies. Autrement dit, avec les deux dernières idées, on a des concepts cosmologiques, mais pas cosmologiques au sens restreint. Et c'est parce qu'ils ne sont pas restreints au monde, ces concepts certes cosmologiques, qu'ils vont pouvoir n'être pas condamnés à l'absurdité. Autrement dit, on le voit, le cosmologique n'échappe à l'absurdité, racine de moins 2, etc., que lorsqu'il cesse d'être restreint au monde. Et lorsqu'il désigne quelque chose qui pourrait bien n'être pas du monde, à savoir un inconditionné dynamique. Donc Kant précise que lorsqu'on a affaire à une synthèse dynamique, il se peut que la condition soit hétérogène au conditionné. Liberté transcendantale selon la relation, qui peut être hétérogène à la série phénoménale des effets. Être absolument nécessaire selon la modalité, qui peut être hétérogène à la série des choses dépendantes dans le phénomène. Et donc, c'est l'ouverture du motif cosmologique à l'extramondain qui peut seul sauver le cosmologique d'une ruine intégrale. La spécificité de ces idées dynamiques, qui fait qu'elles peuvent être hétérogènes à la série qu'elles fondent, d'une part, et d'autre part, l'idéalité transcendantale des phénomènes, qui fait qu'il y a, outre les phénomènes, ce qui se trouve à leur fondement. Ces deux points, spécificité dynamique des idées en question et idéalité transcendantale des phénomènes, permettra une distribution des prétentions qui donne lieu d'une part à la thèse, d'autre part à l'antithèse, une distribution hétérotopique de ces prétentions. La liberté transcendantale serait susceptible de vouloir, pour les choses en elles-mêmes, tandis que les phénomènes seraient strictement régis par le principe de causalité, où on serait potentiellement amené à chercher l'absolument nécessaire du côté des choses en elles-mêmes, tandis que tous les phénomènes seraient du conditionnel. Yeah. Et donc cette fois, alors que dans les deux premières antinomies, la solution consiste à dire l'opposition n'est pas une opposition de contradiction, mais seulement une opposition de contrariété, et les deux contraires sont fausses toutes les deux, pour l'antinomie 3 et l'antinomie 4, la solution présentée par Kant est de transformer la relation de contradiction apparente en une relation de subcontrariété. On a affaire à deux propositions pour lesquelles le tiers est exclu, soit liberté, soit déterminisme par exemple, mais telles que cette fois elles ne sont pas en contradiction l'une avec l'autre, de sorte qu'elles peuvent être vraies toutes les deux. Liberté transcendantale éventuellement du côté des choses en elles-mêmes, mais on n'en sait rien. Principe de causalité du côté des phénomènes. Bref, l'opposition apparente, apparemment de contradiction, est une opposition réellement de subcontrariété, et les parties en présence peuvent être vraies toutes les deux. Rien n'interdit que la validité intégrale du mécanisme pour les phénomènes s'accompagne d'une pleine spontanéité de ce qui se trouve au fondement des séries phénoménales et dont nous ne savons rien. Rien n'interdit d'autre part que la contingence intégrale du mondain soit celle d'une série qui repose sur une condition elle-même inconditionnée. Bien. Voilà donc la manière dont Kant présente les choses dans la critique de la raison pure. J'en viens à mon deuxième temps, et donc on voit, vous voyez, le sens philosophique de la chose assez fort, c'est quand même de dire que la critique de la cosmologie rationnelle est radicale, puisque le monde cesse d'être absurde lorsqu'il cesse d'être le monde. Autrement dit, dès lors qu'il est question du monde, là, la critique est ravageuse. Bien. Alors, je pense qu'il faut toutefois aller plus loin encore, et donc c'est la partie de mon exposé qui concerne la quatrième antinomie, que je vais un petit peu analyser en détail. Je pense qu'il faut affirmer que, dans le cas de la quatrième antinomie, le semblant de consistance qui revient au monde, avant de lui être dénié par Kant au profit donc d'une distinction des prétentions selon phénomène et choses en elles-mêmes, ce semblant de consistance ne revient au monde qu'au gré d'un certain forçage dont Kant lui-même serait comptable, hein, et dont témoignerait l'étonnante faiblesse de cette quatrième antinomie. Étonnante faiblesse que je voudrais détailler maintenant. Alors, je rappelle le dispositif et je vous ai donné la page en question. Selon la thèse de cette quatrième antinomie, un être absolument nécessaire appartient au monde. J'appellerai cette thèse T. Cette thèse est établie en deux temps, dans la preuve. Le premier, T1, prouve qu'il existe quelque chose d'absolument nécessaire qui permet d'achever la série des conditions du changement. T1. D'accord ? Second temps de la preuve, T2, montre que cet être absolument nécessaire qui existe en vertu de T1 ne peut pas exister hors du monde. C'est-à-dire que T2 réfute l'extramondanéité de l'être absolument nécessaire. D'accord ? L'antithèse, quant à elle, que j'appellerai AT, explique, enfin soutient, qu'il n'existe aucun être absolument nécessaire. Là encore, deux temps dans sa preuve, AT1 réfute que l'absolument nécessaire se trouve hors du monde, et AT2 réfute que l'absolument nécessaire se trouve dans le monde. De sorte que, évidemment, il devient strictement utopique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lieu et qu'il n'existe pas. Alors, dans le texte qui accompagne cette quatrième antinomie, Kant note qu'il y a un étrange contraste dans cette antinomie. C'est intéressant les manières dont souvent Kant s'arrête et puis dit, vous voyez, là, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Alors, cet étrange contraste dont Kant parle, il concerne la manière dont, dans un cas, et c'est la thèse, la série totale du conditionné demanderait un achèvement dans l'inconditionné. Alors que dans l'autre, et c'est l'antithèse, le caractère conditionné de tout ce que l'on trouve dans la série est censé prouver que la série ne saurait elle-même être inconditionnée. Vous voyez, donc dans la thèse, on se dit, puisque dans la série, il n'y a que du conditionné, il faut qu'à son fondement, il y ait un inconditionné. Dans l'antithèse, on dit, puisque dans la série, il n'y a que du conditionné, ben, il n'y a pas d'inconditionné. C'est-à-dire que le caractère intégralement conditionné de la série conduit d'une part à conduire à l'absolument nécessaire et d'autre part à le nier. Alors, je reviendrai sur ce point. Je voudrais montrer pour ma part qu'on peut trouver non pas un, mais quatre étranges contrastes dans cette antinomie, et que ces quatre étranges contrastes témoignent tous du fait que cette antinomie ne fonctionne pas. D'abord, premier étrange contraste, un étrange contraste entre la formulation de la thèse, donc T, et ce que sa preuve prouve. Ce que sa preuve prouve, je vais désigner par la lettre T'. C'est la conclusion de la preuve. Je rappelle la thèse. Hein. Au monde appartient quelque chose qui, soit comme sa partie, soit comme sa cause, est un être absolument nécessaire. La conclusion de la preuve, T', est la suivante. Ainsi, quelque chose d'absolument nécessaire se trouve-t-il contenu dans le monde lui-même, qu'il soit la série du monde tout entière, ou une partie de cette série. Autrement dit, la thèse T affirme que l'inconditionné appartient au monde, soit comme sa partie, soit comme sa cause. La conclusion T' est décalée par rapport à la thèse, puisqu'elle soutient que l'inconditionné est contenu dans le monde et qu'il s'agit soit du monde lui-même, soit l'une de ses parties. Bref, dans la thèse initiale, on a alternative entre partie ou cause. Hein, l'absolument nécessaire est soit une partie du monde, soit la cause du monde. Et dans les deux cas, il appartient au monde. Dans la conclusion de la preuve, on a une alternative, cette fois, entre tout et partie. On passe de partie-cause à tout-partie. C'est étrange. Cette substitution pointe la double étrangeté, selon moi, de la thèse. Double étrangeté, d'abord, comment est-ce que l'éventuelle cause inconditionnée dont la thèse fait mention pourrait appartenir au monde sans être une partie du monde. Hein? Au monde appartient quelque chose qui soit comme sa partie, soit comme sa cause. On aurait dans l'hypothèse une appartenance qui ne serait pas une inclusion. La chose est assez obscure. Cause qui appartiendrait au monde sans être une partie du monde. Qu'est-ce que peut vouloir dire appartenir sans être partie d'eux? Et donc, la conclusion T' est plus claire que T et montre que Kant pourrait avoir en vue, de manière assez confuse avec cette appartenance sans inclusion, la figure du tout lui-même. Être du monde, appartenir au monde, ce serait soit être dans le monde, inclusion, soit être le monde, identité. C'est pourquoi, à la fin, on a l'alternative du tout et de la partie, qui semble beaucoup plus logique, beaucoup plus claire, en tout cas. Bref, l'énoncé de la thèse est étrange une première fois, lorsqu'au lieu de spécifier en termes de totalité la seconde figure de l'inconditionné, il la spécifie causalement. Ensuite, c'est la deuxième étrangeté de formulation, l'alternative mise en place par la thèse, soit comme sa partie, soit comme sa cause, suppose dans son premier membre que l'inconditionné visé pourrait être une partie non causale. soit comme sa partie, soit comme sa cause. Or, la question, cette fois, c'est de savoir en quoi une partie qui ne serait pas une cause mériterait ici d'être mentionnée. La preuve de la thèse montre en effet qu'on cherche exclusivement une cause, exclusivement une condition du changement, qui puisse rendre compte du changement, c'est-à-dire, encore une fois, une cause. Et cette condition du changement y est spécifiée comme étant soit une partie du monde, soit comme le tout du monde. D'où un double décalage entre la thèse et sa preuve. Si je résume, la thèse laisse entendre que l'absolument nécessaire pourrait être une partie non causale du monde, ou une cause qui appartiendrait au monde sans être une partie du monde, ces deux choses étant assez bizarres, alors que la preuve recherche exclusivement une cause qu'elle spécifie, soit comme la partie, soit comme le tout. Et là, on est beaucoup plus clair. Autrement dit, la thèse est très bizarre. Deuxième étrange contraste. Je reviendrai en conclusion sur ce qui peut expliquer ces étranges contrastes. Deuxième étrange contraste, il y a un étrange contraste entre l'opposition qui structure cette quatrième antinomie et l'opposition qui structure les autres. En effet, dans les trois premières antinomies, on a toujours affaire à une contradiction apparente dont la solution critique montre le fait qu'elle était une simple apparence de contradiction. En la requalifiant, je l'ai dit, soit comme une opposition de contrariété, antinomie 1 et 2, soit comme une opposition de subcontrariété, antinomie 3. Or, dans notre cas, l'opposition, avant même l'intervention critique, n'est pas une contradiction apparente. Pour que nous ayons affaire à une contradiction apparente, il faudrait soit une opposition entre, d'une part, la simple affirmation qu'il existe quelque chose d'absolument nécessaire, et d'autre part, la négation de l'existence de l'absolument nécessaire. Mais la thèse est trop précise pour ça, puisque la thèse, elle ne dit pas simplement « il existe l'absolument nécessaire », dit « il existe un absolument nécessaire qui appartient au monde ». Autre possibilité pour que nous ayons une contradiction apparente, il faudrait cette fois une opposition beaucoup plus déterminée entre l'affirmation qu'il existe un absolument nécessaire appartenant au monde, c'est-à-dire la thèse, et la négation de toute présence mondaine de l'absolu. Mais cette fois, c'est la thèse, c'est l'antithèse, pardon, qui est trop étendue, puisque l'antithèse, elle ne se contente pas de dire « il n'y a pas d'absolument nécessaire dans le monde », elle dit aussi « il n'y en a pas non plus en dehors ». Vous voyez ? Et donc, clairement dans notre dispositif, le tiers n'est pas exclu même dès l'abord, avant que Kant intervienne. Le tiers n'est pas exclu, qui affirmerait l'absolument nécessaire existe hors du monde. Ce qui impliquerait la fausseté des deux propositions que nous avons. La thèse serait fausse puisqu'elle dit il y a de l'absolument nécessaire qui appartient au monde. L'antithèse serait fausse puisqu'elle nie que l'absolument nécessaire existe aussi bien dans le monde qu'en dehors. On pourrait dire que ces deux propositions sont fausses parce que l'absolument nécessaire existe en dehors du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Autrement dit, avant même l'intervention kantienne, on a affaire ici à manifestement une opposition de contrariété. Avant même l'intervention. Alors que dans toute la stratégie de Kant dans les autres antinomies, c'est de requalifier une contradiction apparente en opposition d'un autre style. Bien. On notera d'ailleurs, je le dis au passage, mais j'y reviendrai, que ce tiers qui est exclu de la rédaction d'antinomie, mais qui n'est pas philosophiquement exclu, est paradoxalement ce qui est le plus proche de la solution de l'antinomie, puisque Kant dira, s'il y a de l'absolument nécessaire, il est hors du monde. Autrement dit, sa solution, elle pourrait fonctionner dès le début. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Troisièmement, j'y reviendrai, troisième étrange contraste, c'est l'étrange contraste dont je parlais. Donc Kant lui-même parle. C'est ce qu'il appelle l'étrange contraste que manifeste cette quatrième antinomie, et qui est que le même argument est mobilisé des deux côtés en faveur d'une thèse opposée. Hein. L'argument selon lequel la série des phénomènes est tissée de part en part de quelque chose qui est simplement conditionné. Or, cet étrange contraste que Kant nomme tel pourrait plutôt être compris comme une étrange absence de contraste entre les preuves respectives de la thèse et de l'antithèse, puisque on a, cas unique dans toute l'antinomie, un même argument de part et d'autre de l'opposition. Et c'est cette absence de contraste argumentatif entre la thèse et l'antithèse qui constituerait, à un second niveau, un étrange contraste entre cette antinomie et les autres. En effet, je rappelle que le régime commun de l'antinomie veut que chaque proposition soit prouvée de manière apagogique, c'est-à-dire par réfutation de la position adverse. Présumer, c'est cette présomption qui est à chaque fois corrigée dans la solution, présumer hein, être l'opposé contradictoire de celle qu'il s'agit d'établir. Et donc, à chaque fois, on prouve la thèse en réfutant l'antithèse, on prouve l'antithèse en réfutant la thèse. Bien. Ce que Kant appelle le procédé apagogique. Et à chaque fois, au fond, la solution sera de dire l'opposé n'étant pas contradictoire, mais une fois contraire, une fois subcontraire, on ne peut pas prouver de manière négative quoi que ce soit. Or, si le raisonnement à l'œuvre dans notre quatrième antinomie est bien apagogique, puisque les deux propositions adverses sont établies négativement, ce qui est intéressant de noter, c'est que la proposition qui à chaque fois est réfutée n'est pas la proposition adverse. C'est-à-dire que si la thèse est établie négativement, elle ne l'est pas par négation de l'antithèse. Si l'antithèse est établie négativement, elle ne l'est pas par réfutation de la thèse. En effet, je rappelle les deux temps de la preuve de la thèse. L'existence d'un inconditionné mondain en modalité, c'est la thèse, d'un inconditionné modal mondain, si vous voulez, elle est établie, cette existence, au motif que l'expérience du changement qui est conditionnée suppose que soit donné l'ensemble des conditions du changement, et donc l'inconditionné, T1. Et T2, c'est le moment apagogique de la preuve, cet inconditionné ne saurait être extramondain parce que il faut qu'il commence à causer le conditionné, et si sa causalité commence, alors il est dans le temps, et s'il est dans le temps, il est dans le monde. D'accord ? Donc, il existe un être absolument nécessaire, et il ne saurait être hors du monde, donc il est dans le monde. T2. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'antithèse ? L'absence de tout être absolument nécessaire est prouvée deux fois négativement, au gré d'une double expulsion, hein, je l'ai dit. D'abord, par réfutation de la mondanéité de l'absolument nécessaire, ce que j'ai appelé AT1, puisque s'il y avait un être absolument nécessaire dans le monde, il faudrait qu'il y ait dans le monde quelque chose qui ne soit pas causé, ce qui briserait le fil conducteur de la légalité de l'expérience, le principe de causalité, de sorte que il ne peut pas y avoir d'absolument nécessaire dans le monde. Jusqu'ici, tout va bien. Mais AT2, l'antithèse ne s'arrête pas là, et réfute ensuite que l'absolument nécessaire se trouve hors du monde. Et quel est l'argument ? L'argument, c'est que un être absolument nécessaire qui serait hors du monde et qui causerait le changement dans le monde devrait commencer à produire le changement, devrait donc être dans le temps, devrait donc être dans le monde. Et si vous relisez le texte, vous verrez que AT2 et T2 sont strictement le même argument. Cas unique dans toute l'antithétique de la raison. Ben, on a AT2 égale T2 égale commencement de la causalité implique temporalité et donc mondanéité de la cause. De sorte que l'extramondanéité de l'inconditionné modal est impossible. Alors cette incongruité, c'est pas simplement une curiosité ou un aspect qui jure pour un adepte de la construction formelle impeccable, ce dont je suis peut-être, mais ce dont en tout cas Kant était censément. Cette incongruité est assez problématique parce qu'elle implique que l'on retrouve ici, du côté de la thèse, un type d'argument qui est caractéristique de l'antithèse dans toutes les autres antinomies, à savoir le souci d'affirmer la continuité des conditions de l'expérience. dans les trois précédentes antinomies, c'est toujours l'antithèse qui rappelle le prétendu inconditionné à son inscription dans la série mondaine pour réfuter cet inconditionné. Ici, la thèse fait la même chose pour prétendument affirmer l'inconditionné. On peut donc trouver bien étrange ce rappel de l'inconditionné au monde du côté de la thèse. Pire, ce front commun contre l'extramondanéité de l'absolument nécessaire suppose que thèse et antithèse partagent l'argument qui est faux pour l'idéaliste transcendantal, selon lequel la cause est nécessairement homogène au causé. Ce front commun contre l'extramondanéité de l'absolument nécessaire est aussi bien un front commun contre ce qui sera la solution de l'antinomie, comme je vais le souligner. Il y a en effet, dernier point, un étrange contraste entre les termes du problème initial et ceux de sa reformulation critique pour solution. La solution de la quatrième antinomie repose, comme celle des précédentes, sur le rappel de la distinction des phénomènes et des choses en elles-mêmes, qui permet, pour les deux antinomies dynamiques, de loger l'éventuel inconditionné dans le champ des choses en elles-mêmes. Le problème est toutefois de taille, parce que la solution de la troisième antinomie, aussi conceptuellement problématique qu'elle soit, n'est pas problématique logiquement. Pourquoi n'est-elle pas problématique logiquement ? Parce que la thèse qui affirmait qu'il existe une liberté transcendantale ne disait pas où. Et donc c'était facile dans la solution de dire « Oui, elle existe peut-être dans le champ des choses en elles-mêmes. » Notre thèse à nous, elle dit qu'il existe un absolument nécessaire, et elle dit où ? Elle dit dans le monde. Le problème, c'est qu'elle dit où il n'est pas. Elle affirme qu'il est là où certainement il n'est pas, à savoir dans le monde. En effet, le principe même de la solution de la quatrième antinomie, ce sera de dire, s'il est un être absolument nécessaire quelque part, ce n'est pas dans le monde, mais dans les choses en elles-mêmes, hors du monde. Autrement dit, et la thèse et l'antithèse, les deux sont d'accord pour nier ce qui sera le principe même de la solution, à savoir la possibilité de concevoir un absolument nécessaire extramondain. Autrement dit, s'il y a une solution à cette prétendue antinomie, c'est parce que T2, qui est l'essentiel au fond de la thèse dans la preuve, à savoir l'être absolument nécessaire est dans le monde, c'est parce que T2 est faux. C'est pour ça qu'il y a une solution. La solution de la quatrième antinomie consiste dans la reconnaissance de l'exclusive extramondanéité d'un éventuel inconditionné en modalité. Je cite A561, B589, « Il faudrait que l'être nécessaire soit pensé totalement en dehors de la série du monde sensible » comme ens extra mundum et comme simplement intelligible. L'issue du conflit repose donc sur la négation de ce que et la thèse et l'antithèse partagent et qui est un commun refus de voir l'inconditionné logé hors du monde. Ce qui pourra être sauvé, c'est simplement l'affirmation de l'inconditionné, qu'on trouve certes dans la thèse, et la vérité de la réfutation de la mondanéité de l'absolu, qu'on trouve dans l'antithèse cette fois. Mais on voit bien ce que ça signifie. L'antithèse a raison dans ce qu'elle contient de stricte réfutation de la thèse. Il n'y a pas d'absolument nécessaire dans le monde, c'est vrai. Alors que la thèse, prise telle qu'elle est formulée, est totalement fausse. Puisqu'elle consiste dans l'affirmation de la phénoménalité de l'absolu. Kant ne peut donc présenter la solution de l'antinomie comme la requalification d'une apparente contradiction en une opposition de propositions subcontraires, toutes deux susceptibles d'être vraies, qu'en modifiant la thèse d'origine, pour ne plus dire avec cette thèse qu'une chose, il existe un être absolument nécessaire. Et vous voyez que là, on change totalement en fait de proposition. La solution suppose donc l'altération assez radicale des parties en présence et surtout de la thèse. Il s'agit de nier dans la solution ce qui est thématiquement affirmé dans la thèse, à savoir qu'il existe un être absolument nécessaire dans le monde. Dit autrement, la solution de cette quatrième antinomie advient dans l'effacement du cadre strictement cosmologique qui est celui de la thèse et qui est farouchement revendiqué par la thèse. Puisque dans sa preuve, on a 10 lignes pour prouver que l'être absolument nécessaire existe dans le monde. Bien. Pour finir, je voudrais formuler 4 questions qui concernent ce quadruple étrange contraste et formuler 4 hypothèses de réponse à ces questions. Premièrement, et donc je me rapporte au premier contraste, pourquoi Kant n'écrit-il pas, tout simplement en apparence, au monde appartient quelque chose d'absolument nécessaire, que ce soit le tout des séries causales qui le composent, ou l'une des causes agissant en lui. Là, on aurait une formulation qui n'est plus problématique de la thèse. Pourquoi Kant a-t-il ressenti le besoin de disjoindre dans l'énoncé de la thèse une cause du monde et une partie du monde, alors que dans les deux cas, on parle de causalité et que dans les deux cas, on est dans l'appartenance au monde. Pourquoi cette étrange distinction qui ne colle pas du tout ? Pourquoi disjoindre cause du monde et partie du monde, alors même que toute la logique du propos commande une alternative entre deux figures de la causalité, dont l'une serait totale et l'autre partielle ? Et pourquoi choisit-il une formulation qui vise l'identification de l'inconditionné et du tout mondain sur un mode si obscur, une appartenance sans inclusion? J'avoue ne pas voir ce que ça peut vouloir dire. Cette formulation confuse, à mon avis, a un bénéfice stratégique. Elle permet à Kant de dire que la thèse est vraie sous condition d'idéalisme transcendantal, et ce, à la faveur d'un tour de passe-passe dont Kant lui-même est comptable. En effet, la cause que la thèse distinguait de la partie alors que cette distinction initiale était entre deux réalités qui appartenaient au monde, la distinction au sein de ce qui appartient au monde entre une cause et une partie va être relue de manière artificielle comme une distinction entre une cause extramondaine et tout ce qui appartient au monde. Vous voyez, alors que la cause relève de ce qui appartient, le mot même de cause va pouvoir être investi d'une signification extramondaine parce qu'il était balancé par une partie. Autrement dit, la cause que la thèse distinguait de la partie va pouvoir être dite dénoter le suprasensible, alors qu'en fait elle dénotait sur un mode confus le tout du sensible. Ce que la thèse visait comme un tout causal, qui n'est pas une partie du monde, mais qui lui appartiendrait au sens où il serait identique, est relu comme une cause qui relèverait de ce qui est en dehors du monde. Symptomatique à cet égard, la reprise du conflit dans la 5e section de l'antinomie voit Kant substituer à cette dualité de la partie cause et du tout causal, qu'on trouve dans la conclusion de la preuve, T', une énumération triplice. L'être absolument nécessaire en question est, je cite, « le monde lui-même, ou une partie du monde, ou la cause du monde ». Alors qu'on avait une double alternative qui ne collait pas, d'ailleurs, on a cette fois 3 possibilités, évidemment, une qui va être la bonne, la cause, c'est l'extramondain. La causalité, qui était l'élément des 2 hypothèses envisagées initialement, devient une possibilité concurrente et qui ouvre la voie de la solution. Ainsi disjointe du monde, la cause pourra ouvrir la voie de la solution, sauf que c'est en tout point ruineux pour la thèse, qui excluait que la cause en question puisse être hors du monde. Autrement dit, la solution, qui prétend dire la thèse est vraie sous condition d'idéalité transcendantale, suppose en fait que la thèse soit fausse. Deuxième question. Pourquoi Kant, et c'était le deuxième étrange contraste, pourquoi Kant ne choisit-il pas l'une des 2 seules formes que pourrait prendre ici une contradiction apparente ? C'est-à-dire, je l'ai dit, soit affirmation qu'il existe un être absolument nécessaire, négation de cette existence, soit affirmation qu'il existe un être absolument nécessaire dans le monde, refus qu'il existe un être absolument nécessaire dans le monde. Pourquoi, au fond, ce caractère bancal entre une antithèse qui exclut l'absolu partout et une thèse qu'il affirme seulement dans le monde? Et c'est de là que fait que ça ne marche pas. Bon. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi l'une de ces deux possibilités d'une contradiction apparente? Au fond, parce qu'aucune de ces deux oppositions, quand on y réfléchit, ne serait satisfaisante. La première opposition serait une véritable opposition. Il existe un être absolument nécessaire, il n'en existe pas. Ce serait une véritable opposition, mais ce bénéfice aurait un coût, à savoir qu'il n'y aurait plus aucune référence au monde dans cette opposition. Autrement dit, ça supprimerait l'ancrage cosmologique de l'antinomie. On aurait une vraie contradiction apparente, mais sans le monde. La seconde possibilité, donc il existe un être absolument nécessaire dans le monde, il n'existe aucun être absolument nécessaire dans le monde, aurait cette fois le bénéfice-coût inverse. Ce serait un propos très clairement cosmologique, puisqu'on parlerait de l'absolument nécessaire dans le monde des deux côtés, mais cette opposition aurait l'inconvénient notable de n'être pas une apparence de contradiction. Dans ce cadre, la thèse, il existe un être absolument nécessaire dans le monde, serait manifestement fausse. L'antithèse, il n'existe aucun être absolument nécessaire dans le monde, serait manifestement vraie. Autrement dit, dans un cas, on a une contradiction apparente sans le monde. Dans l'autre, on a une opposition entre une proposition manifestement vraie et une opposition manifestement fausse, avec le monde certes pour sujet. Autrement dit, la quatrième antinomie ne peut pas donner lieu à une contradiction même apparente. Elle donne lieu soit à une contrariété manifeste, c'est le dispositif qu'on trouve dans la critique de la raison pure, soit à une contradiction apparente sans inscription mondaine, soit à une contradiction réelle dont l'antithèse est vraie et la thèse fausse. Kant opte pour la première possibilité, tout en rendant la contrariété assez inapparente pour qu'elle puisse passer pour une apparence de contradiction. Parricide. Troisième point. Pour la quatrième antinomie, cette fois. Pourquoi la quatrième antinomie est-elle, cas unique dans toute l'antithétique, le lieu d'un accord argumentatif entre les opposés? Dit autrement, pourquoi ce front commun contre la figure extramondaine de l'inconditionné, front commun qui est assez étrange, puisque d'une part, nos amis sont censés se déchirer, or là ils sont d'accord, et encore plus, ils sont d'accord pour refuser ce qui sera pourtant le principe de la solution. C'est quand même assez bizarre. Bon. La réponse est dans la question. C'est le souci d'inscrire l'absolument nécessaire dans le monde, conformément au motif antithétique général, qui conduit Kant à mobiliser, dans le seul cas de la quatrième antinomie, un argument identique dans la thèse et dans l'antithèse. Mais la présence d'un argument identique des deux côtés de l'opposition, quand bien même elle trahit l'inspiration, comme j'ai soutenu, des thèses cosmologiques, en important de leur côté le souci caractéristique des antithèses, celui de la continuité empirique à tout prix, la présence d'un argument identique des deux côtés de l'opposition marque précisément le caractère artificiel d'un dispositif qui fonctionne pour les trois figures quantitatives, qualitatives et relationnelles de l'inconditionné, mais non pas concernant sa figure modale. Enfin, et je me dépêche pour ne pas m'accuser moi-même d'accroître notre retard, pourquoi thèse et antithèse s'obstinent-elles, en contraste avec le sens même du phénomène antinomique, à manifester leur accord sur ce que la solution viendra réfuter, qui est cette pseudo-impossible extramondanéité de l'inconditionné. Cet accord aussi singulier que malvenu est le prix à payer pour que puisse être constitué, contre tout ce qu'il interdit, la quatrième antinomie. Sans cet accord, la question de l'inconditionné en modalité échapperait tout naturellement au cadre cosmologique. Kant le note lui-même au passage. Alors que la thématique de la liberté n'implique pas l'affirmation d'un être intelligible, parce que seule la causalité de la cause est ici concernée. Lorsque je m'attribue une liberté transcendantale, je ne cesse pas d'être un être du monde. Seule la causalité qui me concerne relèverait de l'intelligible. Alors qu'ici, la régression modale vise bien une existence dont le lieu ontologique ne peut pas être la phénoménalité. Les diverses formes de l'étrange contraste sont autant de marques du fait que le choix d'emprisonner la question de l'absolument nécessaire dans un cadre cosmologique est intenable. Cette question, celle de l'absolument nécessaire, si elle émerge certes cosmologiquement, puisqu'il s'agit de clore la série du conditionné, ne saurait enfermer la raison dans un cadre cosmologique. Pour conclure, je dirais donc que, d'une part, dans un premier temps, on voit qu'il n'y a de stade cosmologique de la métaphysique que déceptif, hein, puisqu'il s'agit de mettre en train une quête de l'inconditionné, tout en manifestant son caractère voué à l'échec dès lors qu'elle demeure dans les limites du monde. Mais cette déception est féconde, puisqu'elle est aussi bien une invite à chercher l'absolu ailleurs que dans le monde, c'est-à-dire à opérer ce dépassement du sensible en direction du suprasensible que la métaphysique est. C'est donc l'échec de toute cosmologie rationnelle qui, dialectiquement, appelle à sortir du monde, ce qui signifie entrer proprement en métaphysique. C'est en tant que la voie cosmologique est un échec pour la saisie de l'inconditionné qu'elle demeure une voie métaphysique, puisqu'elle nous met sur le chemin de son site suprasensible, en même temps qu'à son occasion surgit le concept qui sera la clé de voûte du système, comme dit Kant dans la préface de la Critique de la raison pratique, à savoir le concept de liberté transcendantale. L'antinomie, c'est le phénomène du phénomène, au sens où sa solution suppose la reconnaissance de l'idéalité transcendantale de l'espace et du temps. Elle est aussi le phénomène dans lequel la fable du monde se dénonce, puisque s'y atteste le fait que le monde n'est qu'une fable, une fantasmagorie. La consistance de la métaphysique se décèle donc dans l'inconsistance du monde, et cette inconsistance est le résultat de l'antithétique. Bien. J'ai toutefois essayé de montrer que cette inconsistance excède même celle que Kant entend pointer. La déficience du thème cosmologique est telle qu'il n'y a pas même d'apparence cosmologique du point de vue modal. La question de l'absolument nécessaire ne donne pas lieu à une antinomie apparente, mais seulement à une apparence d'antinomie. Et de cette apparence, Kant est lui-même comptable. L'inscription exclusivement intramondaine de l'absolu dans la thèse est économiquement nécessaire si l'on veut qu'il y ait quatre antinomies, mais philosophiquement artificielle. En d'autres termes, l'idée de l'absolument nécessaire n'est pas véritablement cosmologique, elle est strictement transcendante. La vérité de cette prétendue quatrième antinomie, elle est à chercher chez Leibniz, à savoir dans la prétendue preuve cosmologique de l'existence de Dieu. Et que cette vérité de la quatrième antinomie soit de rechef une illusion, c'est une autre histoire. C'est d'ailleurs ce sur quoi Kant clôt l'examen de toute l'antithétique. Je cite « Parmi toutes les idées cosmologiques, celle qui suscita la quatrième antinomie nous pousse à risquer ce pas qui est le premier pas que nous faisons hors du monde sensible. » Or, il me semble que c'est seulement le souci systématique de Kant qui a retardé ce pas, puisque c'est ce souci qui motive que soit construite de toutes pièces une antinomie qui, je pense, craque de toutes parts. Au fond, la quatrième idée cosmologique, celle de l'absolument nécessaire, ne donne pas même lieu à une antinomie, parce qu'au fond, elle n'a que faire du monde. Cela n'exclut pas, bien sûr, que les diverses positions en présence, identification du monde à un être absolument nécessaire, référence de tous les êtres mondains au premier d'entre eux, affirmation de la contingence intégrale, il n'est pas du tout impossible de dire que ces thèses existent historiquement. Hein. Et selon Kant, bon, ça c'est après, il ne s'agit pas de faire de la philologie, hein. Les philosophes se lisent, on sait qu'ils se lisent beaucoup moins bien qu'un agrégatif les lit, ou beaucoup mieux, mais en tout cas différemment. Selon Kant, Spinoza identifie le monde à un être absolument nécessaire, identifie les stoïciens à une pensée de l'absolument nécessaire dans le monde, à savoir l'âme du monde. Il pense que on trouve chez les anciens une affirmation sur laquelle la matière originaire est un être absolument nécessaire. Et il pense qu'Épicure affirme qu'il n'y a dans le monde que du contingent. Et donc toutes ces positions historiquement existent. Mais en revanche, ces positions n'ont pas la force d'enfermer la raison dans un conflit susceptible de la désespérer, comme le font les trois premières antinomies. L'inconsistance du thème cosmologique est telle que ce thème est impuissant à secréter une véritable apparence de contradiction pour la question modale. Lorsqu'il est question du souci de l'absolument nécessaire, le monde est à ce point une fable que même sa crédibilité comme fable, y croire longtemps, se révèle elle-même une fable. Je vous remercie.